Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pont pour la chronique auto. Si je vous dis une petite voiture de sport bleue, française, qui a gagné le Monte Carlo entre autres, vous l'aurez deviné, c'est l'Alpine. C'est une belle page de l'automobile française que je vous propose, celle d'Alpine et de son fondateur Jean Rédélé. L'histoire a débuté en Normandie, à Dieppe, dans l'immédiate après-guerre. Jean Rédélé était un jeune passionné de mécanique dont le père possède un garage Renault. Diplôme de HEC en poche, il devient le plus jeune concessionnaire Renault de France. Persuadé du potentiel de la 4 chevaux qu'il utilise au quotidien, il va l'améliorer. Il conçoit une boîte 5 vitesses, gonfle le moteur et améliore la tenue de route. En 1950, il participe au rallye Dieppe-Rouen qu'il remporte. 2 ans plus tard, il signera une victoire dans sa catégorie à la prestigieuse course des 1000 milles. De son vrai nom Mille Miglia, cette course est l'une des plus connues au monde. Elle fut créée en 1927 en Italie et c'est un périple de 1600 km sur route ouverte. C'est à cette période qu'il réalise que sa passion va plus loin que la compétition et il se lance dans la fabrication de coupés sur base de 4 chevaux. Lors d'une interview, Jean Rédélé évoque ses débuts de constructeur.
Si je puis dire par les courses que j'ai faites, je me suis rendu compte qu'avec les mécaniques françaises, on pouvait faire quelque chose de bien. Et après avoir roulé ma bosse sur toutes les routes de France et de Navarre, après avoir couru sur les principaux circuits avec des voitures dérivées de la série, j'ai pensé que si ces voitures étaient équipées d'une carrosserie sportive, si elles recevaient des aménagements au point de suspension et mécanique, on devait pouvoir faire en France des voitures de sport très valables. Alors j'ai commencé à faire ma première voiture en 1952. Nous avons réalisé 4 ou 5 prototypes et en 1955, la société Alpine est née avec des moyens au départ très limités et elle est arrivée au niveau que vous connaissez maintenant.
Porsche a suivi exactement la même démarche en posant une carrosserie sur un châssis de coccinelle. Pour la réalisation de la carrosserie, il doit se tourner vers l'Italie, faute de prestataires en France. Michelotti, célèbre designer qui travaille pour Ferrari, entre autres, va assurer le design et Alemano va construire la carrosserie. Ce premier modèle, baptisé Rédélé Super, participe à de nombreuses épreuves, permettant à Jean Rédélé de se faire un nom dans la compétition. Ses succès lui font songer aux retombées commerciales, sachant qu'un amateur de voitures de course doit se tourner vers l'étranger, faute de production nationale. Ainsi va naître l'Alpine A106, avec le but de poursuivre la compétition, mais aussi de commercialiser un certain nombre d'exemplaires. Le choix du nom Alpine, qui n'évoque guère la Normandie, est lié à plusieurs victoires dans des épreuves de montagne, le rallye des Alpes notamment. Pour la carrosserie de la 106, Rédélé se tourne vers les frères Chapp et chez Salin, en région parisienne, qui maîtrisent une technologie toute récente, les matériaux composites. C'est son beau-père, Charles Escoffier, concessionnaire Renault à Paris, qui va commander les 25 premiers exemplaires. Charge pour Jean Rédélé de les commercialiser. Ce nouveau matériau, dénommé plastique à l'époque, a l'avantage d'être léger et robuste. Devant le succès de l'A106, va bientôt naître l'A108, avec un châssis maison en lieu et place de celui de la 4 chevaux. En 1956, la sortie de la Dauphine avec son moteur plus puissant va permettre aux Alpines de passer de 45 à 65 chevaux. Diverses déclinaisons seront proposées, dont une version cabriolet. Et puis, en 1962, c'est la révélation avec la berlinette A110 que tout le monde connaît. La voiture est très basse, la ligne est pure et racée, c'est une véritable réussite esthétique. Sur le plan technique, cette berlinette va profiter des améliorations apparues sur la R8. Nouveau moteur, suspension améliorée, frein à disque, puis progressivement la cylindrée va évoluer pour atteindre 1,6 litre et 127 chevaux dans les années 70 avec des moteurs de R16 et R17. La voiture gagnera la plupart des compétitions en France et à l'international. Elle sera sacrée championne du monde des rallyes en 1971 et des constructeurs en 1973. Pour pouvoir s'autofinancer, Jean Rédélé a l'idée de vendre les droits de licence de fabrication à l'étranger. Quelques milliers de berlinettes vont ainsi naître aux quatre coins du monde, au Brésil, au Mexique, en Espagne et en Bulgarie. Malgré ses succès sur la piste, la diffusion de la berlinette reste toutefois limitée. En cause, son prix, son habitacle exigu et une conduite délicate pour le profane. Rédélé en est conscient, il rêve d'une GT utilisable au quotidien, qui soit confortable, avec 4 places. Il s'agit de séduire une clientèle qui jusque-là se tourne vers des productions allemandes, italiennes ou anglaises. Ainsi va naître l'A310. Plus longue de 30 cm, plus large de 10 cm, c'est une 4 places. Présentée au Salon de Genève 1971, sa ligne est en totale rupture avec des formes anguleuses et un arrière plus proéminent. Chez les clients de la marque, l'accueil est plutôt mitigé. De plus, ses dimensions la mettent en concurrence directe avec la Porsche 911. Porsche 911 équipée d'un moteur 6 cylindres de 180 chevaux. L'Alpine, bien que plus légère, est motorisée avec le 4 cylindres de la Renault 16 poussé à 128 chevaux. Un moteur jugé bruyant et sans caractère. La finition et le confort ne sont pas non plus à la hauteur de sa concurrente. Un peu avant son lancement, Alpine avait entrepris la construction de deux usines. Jean Redelé, à l'époque, était confiant.
Nous vendons actuellement à peu près deux fois plus de véhicules que l'année dernière. Et la production va passer pratiquement maintenant est à la cadence de 1500 voitures par an. Et nous espérons, avec la nouvelle usine qui est en cours de construction, nous espérons dans quelques mois, plutôt quelques semaines, doubler ou tripler nos moyens de production pour arriver en courant 70 à des productions de l'ordre de 2500 à 3000 voitures par an entre la France et l'étranger.
Malgré la progression des ventes de la berlinette, le coût financier des nouvelles usines plombe les comptes. Il était donc urgent de lancer l'A310. Pour sa production, Jean Redelé a dû recruter 300 ouvriers et là, mauvaise surprise, il s'en explique dans une interview datant de 2003.
Alors, venons-en aux années, je dirais, critiques et difficiles d'Alpine. En 71, vous présentez la 310, mais très vite, vous supportez un certain nombre de grèves, donc qui pénalisent la production. Et puis, nous arrivons à la crise du pétrole en 1973. Ces concours de circonstances vont vous mettre dans des difficultés financières. Peut-on revenir sur les facteurs qui firent que Renault est entré dans votre capitale ?
L'usine moderne qui est actuellement à Dieppe a été réalisée en plusieurs étapes. Alors je venais de finir la première étape et on était débordé par les commandes. Il fallait agrandir l'usine, ce que j'avais agrandi. Et on a engagé 300 et quelques personnes de plus et l'entreprise Alpine est devenue la première affaire de Dieppe de très loin avec plus de 800 employés. Et sur le plan social, mes hommes n'entendaient pas être préoccupés par les histoires de syndicats, etc. Non pas que j'ai fait quoi que ce soit pour empêcher que les syndicats soient présents, mais c'était les gars qui avaient autre chose à faire que de faire du syndicalisme. Et quand on a agrandi l'usine, et pour cet agrandissement je m'étais endetté sur tout ce que j'avais et tout ce que je pensais que j'aurais, j'ai engagé 300 personnes. Et la CGT qui n'était pas dans la maison a foutu 150 meneurs dans le lot des nouvelles personnes engagées qui m'ont foutu une grève du jour au lendemain. Les gars qui étaient engagés la veille au soir étaient en grève le lendemain matin à 6h.
De plus, le lancement de l'A310 révèle bien vite de nombreuses lacunes avec des problèmes d'étanchéité, de finition et de réglage du train avant. La réputation du modèle en souffrira durablement et les ventes ne dépasseront pas une moyenne de 400 unités par an. Devant la situation de l'entreprise en 1973, Renault propose d'entrer au capital de la marque. Jean Redelé accepte, à condition que les emplois soient préservés, renonçant à des offres étrangères plus avantageuses. C'est l'un des traits du personnage qui a toujours eu de l'estime pour ses collaborateurs.
À ce moment-là, Renault m'a demandé, Monsieur Dreyfus m'a demandé de prendre une participation dans l'affaire. Et j'ai pensé qu'il fallait que je rentre en relation avec Renault, alors que j'étais poursuivi par des marques étrangères que je ne nommerai pas, américaines et japonaises, et je n'étais pas du tout tenté de céder quoi que ce soit d'Alpine à l'étranger, compte tenu que les voitures appartenaient beaucoup plus à mon personnel, beaucoup plus à mes pilotes, beaucoup plus au public, et je ne me voyais pas en train de vendre Alpine à l'étranger, alors que financièrement et fiscalement, c'eût été infiniment plus intéressant. Et la raison pour laquelle j'ai traité avec Renault, essentiellement, ça a été de sécuriser l'emploi de tous mes compagnons.
L'arrivée d'une version V6 va relancer la 310 et permettre de dépasser les 1000 unités annuelles. Ce moteur V6 a une histoire, baptisé PRV, car développé par Peugeot, Renault et Volvo, il devait au départ être un 8 cylindres. Crise du pétrole oblige, on décida de l'amputer de 2 cylindres. Il en résulte un moteur mal équilibré, plutôt gourmand, avec des performances médiocres. Il permettra toutefois quelques victoires en rallye et un titre de champion du monde de rallycross. En 1985, la GTA remplace l'A310. Plus aérodynamique, elle reprend la forme globale avec des angles adoucis et perd ainsi son originalité. Elle inaugure un moteur V6 turbo de 210 chevaux qui lui permet d'atteindre les 250 km/h. mais il ne se vendra que 6494 exemplaires de la GTA en 7 ans de carrière et début 1991, elle cède la place à la 610. La 610, conçue avec un budget réduit, reprend les vitrages de la GTA, ce qui fait que bien que les panneaux de carrosserie soient différents, la ligne est très proche. Seuls les feux avant escamotables la différencient au premier coup d'œil. La finition progresse, notamment le tableau de bord, très décrié sur l'ancien modèle. La stabilité à grande vitesse a été améliorée en utilisant le châssis de l'ancienne GTA version USA, qui était renforcé et donc plus lourd sur le train avant. L'émission M6 Turbo l'avait essayé à l'époque.
Première mondiale également au salon de Genève pour la nouvelle Alpine, mais Turbo a déjà eu l'occasion de l'essayer. Avec la 610, Alpine retrouve une cavalerie respectable, 250 chevaux, une vitesse maxi de 265 km/h et 5 secondes 7 de 0 à 100. Au niveau du comportement, la 610 est une vraie voiture de grand tourisme. Sans délaisser un caractère sportif, on a surtout pensé au confort d'utilisation. Résultat, une ambiance des plus feutrées, même à haute vitesse, un peu trop même, d'après les amateurs de conduite un peu plus musclés. Esthétiquement aussi, gros travail sur l'avant, projecteur rétractable, un petit air de famille avec Porsche. Tout le reste est Alpine, la ligne générale restant grosso modo celle de sa devancière. À l'intérieur, on avait beaucoup critiqué le style de l'ancien modèle. Là aussi, on a beaucoup travaillé. Beau résultat, même si nous n'avons pas eu le coup de foudre. Le coup de foudre, il est là. 3 litres turbo, 6 cylindres en V, 250 chevaux. Commercialisée en avril pour près de 400 000 francs, c'est là, dans son prix, que le bât blesse. Mais la 610 Turbo est-elle pour autant la digne héritière de sa prestigieuse aînée, la 110 ? Difficile de comparer deux voitures totalement opposées dans leur conception.
Lancée au Salon de Genève en 1991, après un bon démarrage, la chute des ventes fut spectaculaire. 484 exemplaires vendus en 1991, 219 en 92 et 36 en 93. Sa carrière se termine en 1995 avec 14 ventes seulement. Son prix élevé, proche de la Porsche 911, un manque d'image et une ligne datée sont les principales causes de cet échec. La fin de la 610 signera la fin d'Alpine. En 2015, toutefois, la marque a été relancée avec une nouvelle A110 plus proche de l'esprit d'origine. Il est trop tôt pour lui prédire un avenir, mais de nouveaux projets vont voir le jour autour de la marque, ce qui est une bonne nouvelle. Ainsi se terminent ces chroniques sur l'Alpine Renault. Bonne journée à tous sur Radio Pont.
It was the 3rd of September, that day I'll always remember, yes I will, cause there was a day that my daddy died. I never got a chance to see him, never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you, tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home.
And when he died,
all he left us was alone. Oh, Papa was a rolling stone, my son, yeah. Wherever he laid his hat was his home.
When he died,
all he left us alone.
Mama, is it true what they say that Papa never worked a day in his life?
And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama, just hold your head and say,
Papa was a holy soul.
Mama looked up with a tear in her eye and said, son,